Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 28 janvier 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, on est à la fin de janvier.
Déjà?
C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler des nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Bien, une semaine relativement tranquille, autant tranquille que ça peut être avec les événements géopolitiques qu'on a. Mais au niveau de la bourse, ça a quand même relativement bien été. Le TSX est en hausse de 1% cette semaine. Le S&P 500, 2,6%. Le Nasdaq, 3,7%. Le MSCI Europe-Australie-Asie, 2,1%. Donc, en général, les marchés performent bien. Les métaux continuent d'augmenter. Donc, s'il y a une chose là, qui retient mon attention, le prix de l'or et de l'argent là, atteint des nouveaux sommets. On rentre là, dans un comportement boursier qui frise la spéculation, là, pour ne pas dire l'euphorie totale. Là, mais bon, on verra où ça va se terminer. Pourquoi? Ben, entre autres, le dollar américain continue de perdre des plumes, non pas juste face au dollar canadien. On est rendu à 73,7 quand même, là, on s'approche de 74, mais face à toutes les devises mondiales. Donc, on a une baisse de l'indice du dollar américain. Au niveau des nouvelles financières, ben, aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada devraient annoncer les mouvements de taux d'intérêt ou les non-mouvements de taux d'intérêt. On s'attend à ce qu'ils demeurent stables. Donc, il y a les largement anticipé là, qu'il n'y aura pas de changement au niveau des taux d'intérêt. Il reste quelques mois à la présidence de Jerome Powell sur la Réserve fédérale. On verra aussi au cours des prochains meetings là, comment ça va évoluer. On rentre dans la saison des résultats financiers. Donc, aujourd'hui, Microsoft, Tesla, Meta, donc trois des Mag 7, là, des sept magnifiques qui vont rapporter les résultats financiers après la fermeture. Demain, on a Apple, Mastercard, l'ECN. Donc, évidemment, quand on rentre dans la période des résultats financiers, ça peut être un peu plus volatile. Quand on dit volatile, c'est autant à la hausse qu'à la baisse. Là, si les entreprises continuent de donner des très bons résultats financiers, puis je dis continue parce que les indicateurs, c'est que ça va bien au niveau des résultats financiers des entreprises. Donc, les gens se disent, quand ça ne peut pas continuer de monter comme ça, la bourse, ben, tant que les résultats des entreprises continuent de s'améliorer, la bourse devrait continuer de bien performer. Alors, on se croise les doigts, on verra qu'est-ce que ça va donner. Peut-être dans 2-3 semaines, on aura là, une grande partie du S&P 500 qui aura rapporté. On pourra un peu mieux là, se faire une tête sur comment évoluent les bénéfices des entreprises.
Mais merci beaucoup, Martin. Cette semaine, c'est toi qui a suggéré le sujet principal. Tu voulais qu'on parle d'un rapport qui a beaucoup fait jaser. Mm-hmm. C'est l'étude de Morningstar. En anglais, c'est Mind the Gap 2025. Donc, c'est vraiment sur l'écart entre le rendement des fonds et celui réellement obtenu par les investisseurs. Donc, dans cette étude-là, on y apprend qu'aux États-Unis, sur les 10 années terminées en décembre 2023, donc c'est une étude qui date de quelque temps, l'investisseur moyen a capté environ 1 point de pourcentage de moins par an que le rendement total des fonds, ce qui équivaut à environ 15 % de rendement potentiel perdu sur la décennie.
Ouais, ben le chiffre illustre une réalité qui est persistante. Bon, les investisseurs ont tendance à faire des allers-retours émotionnels. Hein, un secteur va bien, ben là, je veux rentrer dans le secteur après la hausse. Ça va mal, ben là, je veux vendre, je veux faire d'autres choses parce que ça, c'est un mauvais placement. Ben, au fil du temps, ben, quand on achète haut puis on vend bas, ben, ça gruge une partie du rendement. Donc, Morningstar attribue l'écart principalement par le mauvais timing des investisseurs d'acheter et de vendre des fonds, amplifié par la volatilité des marchés, puis dans une moindre mesure, les frais aussi, parce qu'ils ont fait l'étude non pas que sur les fonds communs de placement, mais aussi sur les FNB. Et il y avait des écarts dans toutes les classes d'actifs là, quand même.
Donc, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Morningstar?
C'est qui ça, Morningstar? Morningstar, c'est une entreprise qui a été fondée en 1984. C'est basé à Chicago. C'est une entreprise qui est active dans 29 pays. Essentiellement, Morningstar, c'est la référence, c'est une référence incontournable dans notre industrie pour évaluer les fonds communs de placement, les FNB, les actions individuelles. Donc, Morningstar, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font de la recherche indépendante sur les investissements. Donc, on a un logiciel là, qui nous permet d'avoir là, tous les détails sur tous les fonds communs de placement au Canada, tous les fonds négociés en bourse, toutes les actions Canada-États-Unis. On n'a pas tous les marchés, là. Tu sais, j'ai pas les actions cotées au Japon, mais on a Canada-États-Unis. Et il y a beaucoup d'entreprises mondiales, évidemment, qui sont aussi cotées aux États-Unis. Donc, on a la recherche sur eux. Les produits de revenus fixes, donc, il y a aussi toute une section, là, obligataire. Donc, c'est vraiment, là, une base de données immense sur les investissements. Les gens connaissent peut-être un peu les étoiles Morningstar, donc ils sont aussi très reconnus là, pour les cotes et les notations. Donc, ils émettent une opinion indépendante sur chacun des fonds communs de placement. Ils émettent des médailles, là, médaille d'or, argent, bronze, neutre ou pas bon, tu sais, négatif. Puis c'est vraiment une donnée financière, une plateforme technologique. Donc, nous, chez nous, là, on a le Workstation Advisor, donc, qui est un logiciel là, qui coûte quand même quelques dollars par année, par conseiller, pour avoir accès à toutes ces informations-là. On ne pourrait pas s'en passer. Là. Les gens nous demandent où vous prenez vos idées. Là? Ben, on prend les idées d'un peu partout, mais on va aller chercher les données financières de ces idées-là dans cet outil Morningstar. C'est aussi, par contre, c'est également, là, ils gèrent de l'argent aussi, là, tu sais. Donc, ils sont principalement reconnus pour les services de recherche puis d'analyse, mais ils gèrent quand même juste 295 milliards de dollars américains également.
Bien, merci beaucoup, puis tu as raison, c'est vraiment un outil qu'on ne pourrait pas s'en passer. On l'utilise plusieurs fois par jour, très, très souvent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement le gap dont parle Morningstar et pourquoi le rendement de l'investisseur diffère-t-il du rendement du fonds?
Oui, donc l'écart, donc le gap en anglais, ce que Morningstar a réalisé, donc si je prends le fonds là, ABC Action canadienne, tu sais, peu importe lequel, le fonds réalise un rendement moyen par année depuis 20 ans de 10 %. Ben, tous les investisseurs qui investissent dans ce fonds-là devraient avoir réalisé 10 % de rendement. Mais ce que le Morningstar s'est rendu compte, ben, quand je calcule le rendement de chacun des investisseurs individuellement, ils n'ont pas fait 10 %, ils ont fait juste 9. Comment ça? Comment ils mesurent ça? Comment ça qu'ils ont moins? Ben parce qu'ils ont acheté après que le fonds ait connu une bonne performance. Puis là, ben comme tous les fonds, des fois, ils peuvent avoir des petits passages à vide, un an ou deux un peu moins performants. Puis là, ben ils ont vendu le fonds après une mauvaise période. Puis là, ils ont racheté d'autres choses. Et donc, c'est vraiment le fait de transiger au mauvais moment. On se rend compte que si on n'avait rien touché, on aurait probablement fait ce pourcentage-là supplémentaire de juste quasiment, entre guillemets, ignorer le placement. Fait que c'est ça l'écart. C'est vraiment là, comment ils font ça. Ben ils mesurent en anglais, les flows, là, donc les flux monétaires à l'intérieur du fonds. Donc, c'est-à-dire que on sait que le fonds, par exemple, il y a 1 milliard sous gestion, puis pendant qu'il y a 1 milliard sous gestion, il a réalisé 12 %. Puis là, il y a plein de gens qui ont acheté. Et là, ils mesurent donc la performance, mais pondérée à la taille du fonds en dollars. Et c'est comme ça qu'ils viennent ajuster un petit peu, non pas juste la performance du fonds ou du prix de l'unité, mais la performance des dollars qui ont été réalisés. C'est un peu le même principe chez nous, là, les rendements des clients que sur votre rapport de performance. C'est un rendement pondéré en dollars. Donc, ça dépend si vous avez fait des gros retraits, des gros rachats durant l'année. Ça peut modifier un petit peu le rendement. C'est cette méthode-là que Morningstar a utilisée en quelque sorte pour mesurer la vraie performance des investisseurs du fonds.
Et est-ce que toutes les catégories de fonds sont touchées de la même façon ou est-ce qu'il y a des endroits où l'écart est plus large?
Oui, toutes les catégories de fonds sont touchées, pas tout à fait de la même façon. Donc, puis l'écart varie quand même pas mal. Les fonds d'allocation d'actifs, donc tu sais, un fonds répartition d'actifs multigestionnaire macro, par exemple, c'est l'écart le plus étroit, 0,4%. La rationale de Morningstar, l'explication de ça, c'est probablement, souvent c'est des solutions qui sont utilisées par exemple dans les régimes de retraite collectifs. Donc tu sais, c'est la recette George Foreman, là, set it, forget it, tu le sais, t'as fait ton choix il y a 20 ans, tu n'as pas touché depuis 20 ans à ton régime collectif. C'est aussi une classe d'actifs pour les gens qui justement veulent pas s'en occuper, des fois un fonds d'allocation d'actifs. Donc, c'est moins sensible à être transigé, ce genre de fonds-là. L'écart le plus prononcé, c'est les fonds sectoriels. Donc, tu sais, les gens qui disent « Ah, je peux-tu avoir un FNB orifère? Je peux-tu avoir un fonds de technologie? Un fonds de marché émergent? » Donc, plus on va petit, plus on va pointu dans la spécialisation, là, on parle d'un écart de 2,6% par année entre la performance du fonds puis le rendement réel des clients sous-jacents. C'est quand même énorme là, en termes d'écart. Donc, on fait attention là, de ne pas trop se spécialiser puis d'essayer d'anticiper le marché avec des fonds spécialisés.
Absolument. Et tu as parlé de comportement un peu. Concrètement, quel billet nous coûte le plus cher? Je pense qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois.
Des billets cognitifs. Oui. Donc, la chasse à la performance. Donc, on achète ce qui vient de monter. Ça vient probablement du biais de récence, là, de oui. Penser que les événements récents sont susceptibles de se reproduire dans le futur. Donc, ça, c'est la chasse à la performance.
Ben puis on le voit un peu maintenant hein, avec l'or, parce ouais. que là, l'or va monter. Là, tout le monde veut y participer, mais si on aurait parlé aux gens il y a 2 ans, il n'y a personne qui aurait voulu nécessairement investir dans l'or.
Ben, c'est ça.
C'est monté. Là, les médias commencent à en parler de plus en plus. Plus on l'entend dans les médias, mais plus qu'on a le goût d'y investir.
Ouais. L'or est demeuré un mauvais placement en 2011 et 2023. Là, 12 ans de temps à zéro rendement. Il n'y a pas tant de monde que ça qui nous demandait d'en acheter à ce moment-là. Mais maintenant que ça a monté de 150%.
On l'a vu avec le Bitcoin, on a vu avec le cannabis. Donc, vraiment,
c'est assez fréquent. Là. Donc, la panique, toujours encore là le biais de récent de réagir aux émotions puis de vouloir, là, dès qu'une correction, sortir puis peut-être racheter plus tard. Bien évidemment, quand on va racheter, ça va avoir déjà rebondi. Puis le surtrading, donc des fois, l'être humain, dans une période d'inconfort, on veut faire quelque chose. T'sais? Alors que la réalité, c'est pas parce qu'on fait un geste que ça va améliorer notre sort, mais on psychologiquement, on dit faut changer de quoi. T'sais? Je suis inconfortable, je veux bouger quelque chose pour me sentir mieux. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne affaire. T'sais? La plupart du temps, les meilleures transactions, c'est celles qu'on ne fait pas. Donc, de résister là, à faire beaucoup de changements. Donc, c'est vraiment là, les points précis, le timing des transactions, la volatilité. Donc, évidemment, plus un marché là, fait des gros swings, plus on a tendance à transiger. Puis aussi les frais, là. Donc, il y a des billets à moindre frais. Par exemple, un FNB à moindre frais, l'écart était un peu plus serré, mais quand même, là, pas significativement différent. C'était assez similaire. Donc, le fait de sauver de l'argent sur le frais du FNB, c'est bien, mais après ça, si on transige, comme le billet que Morningstar mentionne, on se fait frapper par l'écart, ben l'économie de frais est annulée par le comportement de l'investisseur. C'est beaucoup ça, la conclusion de l'étude.
Et puis, on comprend le diagnostic, on peut dire. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire cet écart en 2026? Puis, je pense que c'est des choses qu'on a déjà dit.
Oui, exact. Bon, on ne réinvente pas la roue, là. On est en train simplement de renforcer ce qu'on doit faire. Il faut garder le cap. Donc, il faut définir une politique de placement. Donc, tu sais qu'avec nos clients, là, on a des portefeuilles établis. On a des raisons pourquoi on a fait des choix dans le portefeuille. Puis il faut s'en tenir à ça. Il faut essayer d'éviter de capturer plus de rendement, là, de courir après du rendement. Il faut accepter aussi que quand on a un fonds commun quelconque qu'on a choisi, on connaît le gestionnaire, on connaît sa méthode, ça se peut que son style ne soit pas performant pendant 1 an ou 2 parce que le marché ne valorise pas le genre d'entreprise qui achète. Et c'est correct, passer à travers. Il faut arrêter là, d'essayer de toujours vouloir changer puis de penser que tout le monde est bon tout le temps. Laisser les styles faire leur œuvre et regarder à long terme.
Et c'est le FOMO, Fear of Missing Out.
Exact.
La peur de manquer le bateau, là. Ça, il faut oublier.
C'est un ennemi. Automatiser le plus possible, donc des structures d'allocation, de répartition d'actifs, c'est toujours bon. Tout ce qu'on peut automatiser, si on a des retraits à faire, on peut automatiser le retrait. Tout ce qui évite, tout ce qui nous permet de ne pas utiliser nos émotions pour prendre des décisions, ça va nous aider. Réduire la volatilité comportementale. Donc, les thèmes étroits, là, nous, on n'est pas très fervent là, des fonds sectoriels ou des FNB trop sectoriels, justement parce que quand le secteur arrête de bien performer, ben là, c'est trop tentant de changer, sortir, de se promener d'un secteur à l'autre, puis finalement, créer nous-mêmes cet écart-là qu'on essaie d'éviter et surveiller les frais puis la discipline de rééquilibrage. Donc, tu sais, maîtriser les coûts, c'est correct de payer des frais, là. Tu sais, ça fait partie des services de gestion de patrimoine. Il y a des coûts aussi à rentrer dans le marché, ne serait-ce qu'un FNB, même si le frais est petit, il y a un coût pareil. Donc, il faut choisir où on paye des frais, peut-être pour des secteurs ou des classes d'actifs qui requièrent une certaine expertise. Donc, on fait attention à ça, mais il ne faut pas surtransiger. Puis, tu sais, il ne faut pas annuler l'économie de frais, justement, par un mauvais comportement dans le portefeuille qui crée cet écart-là. Et cet écart-là, il est équivalent aux frais de gestion annuels qu'on charge quasiment. Là, tu sais, on parle d'un écart de 1%. Ben, si on vous aide à être juste un peu moins indiscipliné, puis là, je dis par rapport à un investisseur autonome, par exemple, ouais. OK, on parle pas d'un client à l'autre, mais c'est juste ça, si on peut aider, ne serait-ce qu'à couper l'écart de moitié par un meilleur comportement, ça va compenser une partie des frais qu'on charge pour la gestion de patrimoine.
Donc, si je te demande une règle d'or, une seule chose à retenir pour 2026, ouais, afin d'éviter de tomber dans l'écart ou dans le gap, c'est quoi?
Remplacer les réactions par des règles. Donc, si on s'établit à l'avance des règles, s'il arrive X, s'il arrive Y, je veux tel genre de portefeuille, et peu importe ce qui arrive, on va voir nos règles avant de transiger, ça va nous aider à éviter justement cet écart.
Toi et moi, on fait comme investisseurs pour nos clients, on s'établit des règles, on a des processus en place et c'est ça que nos gestionnaires de portefeuille vont faire aussi, qu'on utilise, c'est qu'ils ont des règles d'investissement et ils ne dévient pas de ces règles-là. Peu importe le contexte économique, et qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui n'est pas à la mode.
Et les manchettes, qu'est-ce qui est sur la une du journal. Donc, quand c'est aux nouvelles, ben, il ne faut pas réagir à ça, il faut s'en tenir à nos règles d'investissement à long terme.
Ben, merci beaucoup, Martin, parce que tu as vraiment pris le temps de lire cette étude, puis tu nous l'as partagée avec moi et avec tout le monde aujourd'hui. À nos auditeurs, si vous avez des questions ou vous souhaitez discuter de votre portefeuille ou de votre stratégie de gestion de patrimoine, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi sommes vraiment là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.